Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. L'antenne vous appartient, vous le savez, tous les jours à cette heure-ci, RFI vous propose de commenter l'actualité. Vous étiez très nombreux hier, aussi bien au standard que sur les réseaux sociaux, à souhaiter réagir à la désignation de Michel Cafondo pour présider le Burkina Faso durant les 12 mois de la transition. Eh bien, nous allons prolonger notre débat d'hier. Nous le prolongeons, d'autant qu'aujourd'hui, c'est une journée importante, puisque dans quelques heures, le nouveau président prêtera serment. La passation de pouvoir est quant à elle prévue vendredi en présence de plusieurs chefs d'État, et d'ici là, eh bien Michel Cafondo va devoir nommer un Premier ministre et former un gouvernement. Alors qui sera justement le nouveau Premier ministre? Sera-t-il un civil ou un militaire? En tout cas, les deux options sont prévues dans la charte de la transition. Et dites-nous, comment vous imaginez justement tout ce processus de transition qui doit conduire le pays vers des élections au plus tard dans un an? 33 9 693 693 70, les réseaux sociaux, notre compte Twitter, mais aussi notre page Facebook, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Et n'oubliez pas de nous indiquer évidemment un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler, que vous puissiez évidemment vous exprimer en direct sur l'antenne. D'abord, vos questions, c'est votre rendez-vous avec les journalistes d'RFI. Toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Paul est avec nous. Bonjour Paul.
Alors, bonjour à tous les auditeurs du RFI.
Bienvenue sur l'antenne. Vous êtes à Boaké en Côte d'Ivoire et vous avez des questions concernant les querelles interpalestiniennes.
Oui, c'est exact. La semaine dernière, c'était le 10e anniversaire de la mort de M. Yasser Arafat. Et cela a fait apparaître certaines dissensions entre le Hamas et le Fatah. Ma première question est que pourquoi est-ce que la commémoration a eu lieu en Cisjordanie et pas à Gaza? Et la seconde question est que pourquoi, compte tenu des tensions actuelles, est-ce que la réconciliation, l'unité nationale et l'idéal qu'incarnait M. Arafat est-il toujours envisageable?
Ouais, bonne question. C'est vrai que le contraste était saisissant la semaine dernière entre Ramallah, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour rendre hommage effectivement à Yasser Arafat, et Gaza où les commémorations ont été annulées. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante permanente de RFI à Jérusalem. Comment expliquer qu'il n'y ait pas eu la moindre commémoration à Gaza?
Alors d'abord, depuis 2007, lorsque le Hamas a pris le pouvoir à Gaza et en a chassé le Fatah, ce qui a donné lieu à une guerre fratricide, la mort de Yasser Arafat n'était pas commémorée. Elle devait pour la première fois être commémorée mardi dernier pour les 10 ans de sa mort, parce que vous savez qu'il y a un gouvernement de consensus et que le Fatah et le Hamas sont censés avoir fait la paix. Seulement 4 jours avant vendredi 7 novembre, une dizaine d'attaques à l'explosif ont visé des membres du Fatah, leur maison, leur voiture et aussi une tribune qui devait servir aux cérémonies pour le 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat, donc à Gaza. Alors il n'y a pas eu de victimes, mais les commémorations ont du coup été annulées. Le Hamas a estimé que la sécurité autour de ces cérémonies ne pouvait être assurée. Le Hamas qui a condamné les attaques, mais le Fatah a tenu le parti islamiste pour responsable de ces attentats.
Oui, les deux, le Fatah et le Hamas, se sont accusés mutuellement d'être responsables de ces attentats. En tout cas, comme le disait Paul, c'est vrai que on a vraiment l'impression que 10 ans après la mort d'Arafat, le Fatah et le Hamas sont plus que jamais divisés.
Oui, c'est vrai qu'alors on rappelle les échanges très vifs qu'il y a eu à l'occasion de ces cérémonies entre le Fatah et le Hamas. Mahmoud Abbas, le successeur de Yasser Arafat, a accusé le Hamas d'être responsable des attaques contre son parti et de détruire la réconciliation signée au printemps. Le Hamas a aussitôt répliqué en parlant de mensonges, d'insultes, de désinformations. On se demande effectivement si cette réconciliation qui s'est traduite par un gouvernement de consensus en juin dernier tient encore. Vous savez que ce gouvernement a eu peine à se réunir. Il ne l'a fait qu'une seule fois à Gaza et le Premier ministre Rami Abdallah a annulé sa dernière visite dans l'enclave palestinienne juste après les attaques contre le Fatah. Le Hamas est censé avoir rendu les clés du pouvoir au nouveau gouvernement, mais dans les faits c'est moins évident. Il a toujours le contrôle de la sécurité sur place à Gaza. Donc vous voyez, il y a beaucoup de divergences entre les deux parties et même s'il y a un gouvernement d'union, on ne peut pas parler aujourd'hui d'unité nationale.
Ah ouais, de facto, le Hamas continue donc de diriger la bande de Gaza. Paul, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, vous avez répondu exactement ma question.
Eh bien, on vous souhaite une bonne journée. Merci. À Boisquet. Merci à vous de votre fidélité. Muriel Ambroise, qui est en région parisienne, je vais me faire son porte-parole. On n'arrive plus à le recontacter. Ambroise, qui revenait sur l'annonce d'Israël d'accélérer les plans de pour la construction de 1000 logements à Jérusalem-Est. Et il nous demandait pourquoi autoriser la construction de nouvelles colonies dans un contexte aussi tendu.
Oui, effectivement, ça peut être vu comme une provocation. Le contexte tendu, vous le savez, c'est cette vague d'attentats. Il y en a encore eu un ce matin dans une synagogue avec 4 Israéliens tués. Une vague d'attentats depuis un mois, des affrontements entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes qui ont été déclenchés par les provocations de juifs extrémistes sur l'esplanade des mosquées, mais qui sont aussi le résultat d'une exaspération des Palestiniens face à l'occupation israélienne et face à la colonisation. La colonisation, c'est un des facteurs de tension. Elle prive les Palestiniens de leurs terres et empêche à terme la création d'un État palestinien viable. Alors effectivement, la question c'est pourquoi les autorités israéliennes persistent-elles à poursuivre la colonisation ? Eh bien d'abord, cette colonisation qui est considérée comme illégale au regard du droit international est dans l'ordre des choses pour les Israéliens, est tout à fait légale. Ensuite, ça peut être vu aussi comme une punition collective. L'annonce de ces nouvelles constructions dans les colonies est intervenue après cette série d'attentats à chaque fois. Et puis plus politiquement, Benjamin Netanyahou, le premier ministre, se sert de cet outil de colonisation pour donner des gages à l'aile la plus à droite de sa majorité, qui estime qu'on n'est jamais assez ferme vis-à-vis des Palestiniens, l'aile droite qui menace régulièrement de faire éclater sa coalition. Donc on peut se demander effectivement si Benjamin Netanyahou ne sauve pas un peu sa peau politiquement en accélérant la colonisation.
Oui, et Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé encore dimanche dernier qu'Israël n'acceptera aucune limitation à la construction dans les quartiers juifs à Jérusalem. Merci beaucoup Muriel Paradon d'avoir été avec nous. On vous retrouvera évidemment un peu plus tard dans la matinée dans nos différents journaux, puisque vous êtes sur place, là où cette attaque a eu lieu ce matin. Deux Palestiniens armés de pistolets et de haches qui ont donc attaqué des fidèles dans une synagogue de Jérusalem au moment de la prière. Il est 9h17 ici à Paris. Vous nous appelez, vos questions évidemment nous intéressent, toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité. 33 9 693 693 70. Simon Rosé du service Sciences vient de me rejoindre. Bonjour Simon.
Bonjour Juan.
Beaucoup de questions concernant la sonde Rosetta et le petit robot Philae, deux stars internationales ces derniers jours. Vous avez eu la chance, vous Simon, d'être en Allemagne, d'être physiquement présent au centre de contrôle de l'Agence Spatiale Européenne, donc vous avez vécu quasiment en direct, on va dire, l'atterrissage du petit robot Philae. Vous avez vécu l'émotion de tous ces ingénieurs, puisqu'il y a quand même derrière tout ça plus d'une dizaine d'années de travail. Bienvenue est avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Wang.
Vous êtes à Kinkala, au Congo. On vous écoute.
Oui, j'ai une question concernant la sonde Rosetta. J'aimerais savoir comment les scientifiques ont-ils fait pour guider la sonde jusqu'à la comète. Et n'ont-ils pas rencontré des obstacles pendant les 10 ans ?
Les 10 ans, oui, c'est vrai que la sonde spatiale européenne a quand même parcouru plus de 510 millions de kilomètres avant d'atterrir sur cette fameuse comète. Simon Rosé, avant d'aller voir la comète Chury, c'est son nom, il a fallu évidemment choisir une comète comme cible. Pourquoi cette comète en particulier et pas une autre ?
Eh bien, en fait, figurez-vous qu'au début du projet, c'était une autre comète Virtanen qui était la cible de cette mission, avec un lancement qui était prévu à l'époque en janvier 2003. À bord d'une fusée Ariane 5, mais voilà, en décembre 2012, cette fusée Ariane 5, pour un autre projet, connaît des ratés et voit son lancement annulé. Donc l'enquête qui va enquêter sur les raisons de cet échec va durer un an, reportant donc le lancement de Rosetta et du coup la fenêtre de tir, parce qu'il faut bien que la comète soit à portée pour qu'on puisse aller dessus. Donc cette fenêtre de tir avec la comète Virtanen s'est fermée. Donc les responsables du projet se sont alors tournés vers une autre comète, 67P Churyumov-Gerasimenko.
Bravo.
Chury,
c'est plus sympa.
Voilà,
à dire.
C'est comme ça qu'on la surnomme, avec un décollage prévu le 2 mars 2004. Alors pourquoi Chury ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle était à notre portée.
Donc, une fois la destination déterminée, comment est-ce qu'on a pu faire techniquement pour envoyer une sonde sur une cible à plus de 500 millions de kilomètres ?
Eh bien, déjà, il faut savoir comment se déplace cette cible. Dans ce cas-là, il s'agit d'une comète, ce qui veut dire que c'est un corps céleste qui vient de très loin dans le système solaire, qui va tourner autour du Soleil en se rapprochant très près jusqu'à le frôler et repartir dans les confins du système solaire. Donc c'est une orbite qui est vraiment très elliptique. Chury, elle a été découverte en 1969, c'est-à-dire qu'on la connaît bien, on connaît bien sa trajectoire, on peut l'étudier, et donc on sait où elle sera dans un moment précis. Si vous demandez aux gens qui travaillent sur ce projet où elle sera le 28 mars 2422, ils pourront vous dire exactement où elle sera, parce qu'on connaît bien sa trajectoire. Donc à partir de là, on sait où elle est. Vous imaginez bien qu'on va pas la viser et tirer tout droit dessus, hein, parce qu'on n'a pas de fusée assez puissante pour ça. Ça, c'est que dans Interstellar et la science-fiction. Du coup, on utilise une technique qui est beaucoup plus longue, mais qui demande également beaucoup moins de puissance. C'est ce qu'on appelle la fronde gravitationnelle.
La fronde gravitationnelle.
Oui, c'est un peu barbare, mais c'est très simple en fait. Hein. Imaginez, Juan, que vous teniez une corde à laquelle vous accrochez une pierre à l'extrémité.
Pour l'instant, je sais faire.
Vous la faites tourner autour de vous comme ça.
D'accord.
Vous tirez un petit peu sur la corde pour la raccourcir. Du coup, la pierre va accélérer. C'est comme une patineuse artistique qui tourne sur elle-même et qui va hop, rapprocher ses bras, elle va tourner plus vite. En fait, le principe de la fonte gravitationnelle, c'est à peu près la même chose. C'est qu'on va tirer Rosetta depuis la Terre. Elle va faire le tour du Soleil, hop, frôler la Terre, donc elle va accélérer. Elle va frôler Mars, elle va accélérer encore. Une nouvelle fois la Terre, une nouvelle fois la Terre, et paf, elle est lancée en direction de Chury. Donc au total, ce trajet, ça lui a pris 10 ans pour le faire.
Et donc du coup, on parle de 500 millions de kilomètres, alors, mais elle a parcouru bien plus.
Elle a parcouru 6 milliards de kilomètres. Là, en fait, Chury en ce moment se trouve à 511 millions de kilomètres de la Terre, mais Rosetta a dû parcourir 6 milliards de kilomètres en tournant 5 fois autour du Soleil pour arriver jusqu'à cette comète, à la vitesse qui est quand même respectable, de pas loin de 40 km par seconde.
Ah, par seconde.
Par seconde.
Oui, effectivement, c'est respectable. Simon Rosé, restez avec nous, on a d'autres auditeurs qui s'intéressent évidemment à cette première mondiale, à cette prouesse technique. Abel, bonjour.
Bonjour, Anne.
Vous êtes à Lomé, vous avez plusieurs questions, on vous écoute.
J'ai des questions à propos de Rosetta.
Oui.
En quoi consiste cette mission exactement? Et qu'est-ce qu'elle peut apporter à la connaissance scientifique?
Ah, bonne question.
L'atterrissage de cette sonde a été difficile. A-t-elle pu cependant réussir sa mission?
Ah, vous voulez qu'on revienne également sur l'atterrissage? C'est vrai que il y a eu quelques frayeurs. Hein,
oui.
Vous allez nous raconter tout ça parce que vous l'avez vu. Hein,
ah
vous
bah
étiez
oui,
aux côtés des scientifiques.
Responsables.
D'abord, en quoi consiste exactement cette mission? C'est vrai qu'on on a vu tout ce qu'il fallait faire pour atteindre donc cette fameuse comète. Pourquoi d'abord une comète déjà?
Pourquoi une comète en particulier? Oui. Ben, en fait, ce sont tout simplement des mines d'informations sur les origines du système solaire. En fait, le Soleil, les planètes, les astéroïdes, les comètes sont apparus il y a environ 4 milliards et 600 millions d'années, donc quand même une époque assez lointaine. Et sur Terre, c'est compliqué de retrouver les traces de cette période, puisqu'il y a le vent, l'érosion, la tectonique des plaques qui effacent en fait toutes les stigmates, toutes les informations qu'on peut avoir de cette époque. Les comètes, elles, en revanche, on l'a dit, elles n'ont pas bougé depuis, puisqu'elles viennent de très loin dans le système solaire. C'est une région qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui se trouve derrière Neptune, où c'est presque l'espace intersidéral, il fait moins 270 degrés de moyenne, donc c'est assez froid, hein, vous en conviendrez. Ouais. Donc du coup, elles n'ont pas changé en fait les comètes depuis leur formation, et elles ont un autre avantage, de par leur orbite qui est très elliptique, elles viennent nous dire un petit bonjour de temps en temps, donc on peut aller les voir et les étudier.
Ouais. Et donc atterrir sur une comète, c'est comme utiliser une sorte de machine à voyager dans le temps, à 4 milliards 600 millions d'années en arrière. Pourquoi est-ce qu'on entend dire que ces comètes finalement peuvent expliquer l'origine de l'eau, l'origine de la vie sur Terre?
Eh ben justement, on va prendre cette machine à remonter dans le temps. À l'époque, le système solaire, il n'est pas stable comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les planètes, elles ont des orbites qui sont propres. Il n'y a pas trop de débris autour. À l'époque, c'est beaucoup plus chaotique. Il y a des astéroïdes, des comètes un peu partout. Sur l'orbite de la Terre, il y a plein de débris également qui vont percuter la Terre en permanence. C'est un véritable bombardement. Et les comètes, on sait depuis les missions qui ont précédé Rosetta, qu'elles sont principalement faites de glace d'eau. Donc la théorie, ce serait que à l'occasion de ce bombardement, il y a 4 milliards et demi d'années à peu près, les comètes et leur eau ont frappé massivement, à répétition, la Terre, apportant donc leur eau et donc formant ainsi les océans qu'on peut trouver sur Terre.
Et pour l'origine de la vie?
C'est un peu le même raisonnement. Là, c'est la sonde Giotto qui nous l'a pris. C'est une sonde européenne, on peut la considérer comme la grande sœur de Rosetta. Elle avait étudié la très connue comète de Halley. En fait, elle l'avait suivie. Et c'était mis derrière la fameuse chevelure. Vous savez que les comètes ont cette chevelure caractéristique qui traîne derrière.
Ouais.
Voilà. Donc Giotto s'était mis derrière la comète de Halley, avait ramassé des particules éjectées dans cette chevelure, et il avait trouvé ce qu'on appelle des macromolécules, des biomacromolécules. Donc ce sont de très grosses molécules qui sont utilisées par le vivant. On les trouve dans votre corps, mais aussi sur l'herbe, partout, dans tout ce qui vit. On trouve ces molécules. ce que les scientifiques comprenaient pas trop, c'est comment ces molécules sont apparues sur Terre, comment elles se sont développées en fait. Mmh. Donc là encore, les comètes pourraient apporter la réponse. Ce serait elles qui les auraient apportées sur Terre à l'occasion de ce bombardement massif il y a plus de 4 milliards d'années.
Et c'est donc pour ça que cette mission a donc été lancée, Simon ?
Tout à fait. C'est en fait le but, c'est d'envoyer deux appareils, Rosetta, la sonde qui va se mettre en orbite autour de la comète, et Philae, le petit robot, le petit atterrisseur qui lui a été largué sur la comète pour vraiment l'étudier sous toutes ses coutures. Et dans les deux cas, en fait, mettre une sonde en orbite autour d'une comète et poser quelque chose dessus, c'est une première, ça n'a jamais été fait avant.
Ouais, c'est passionnant en tout cas, Simon. Alors Abel, je regarde la pendule, le temps passe vite, on prend le temps de vous expliquer, mais en même temps c'est important, et c'est vrai qu'on a rarement des questions science dans l'émission. Abel nous demandait, revenait sur cet atterrissage qui a été effectivement difficile, est-ce que malgré tout on peut dire que le robot a réussi sa mission, parce qu'on rappelle quand même que Philae a rebondi au moment de toucher le sol.
Oui, voilà. En fait, Rosetta avait largué, donc était en orbite autour de la comète, l'a largué sur Tchoury à 10 heures et quelques minutes en temps universel. C'est une descente qui a mis 7 heures, parce que c'était vraiment de la chute libre. Il y a très peu de gravité sur cette comète. Donc Philae a mis 7 heures pour descendre, et au moment de l'impact, en fait, il devait avoir deux petits harpons qui allaient se lancer et se ficher dans le sol.
S'accrocher au sol.
Pour le maintenir. Malheureusement, ils n'ont pas fonctionné. Donc du coup, après 7 heures de descente, Philae a rebondi, et c'est peut-être le plus beau saut de l'histoire de l'humanité. Il a rebondi pendant 2 heures, il était en l'air pendant 2 heures, et il est monté jusqu'à 1 km de hauteur.
Et ensuite, il a atterri plus long que prévu finalement.
Donc il a atterri, il a rebondi une nouvelle fois, plus court, 7 minutes, et s'est posé finalement à 1 km à peu près de l'endroit qui était prévu, dans une zone où c'est là le souci, qui est très ombrageuse, qui prend pas beaucoup le soleil, donc ces petits panneaux solaires qu'il avait sur le côté ne recevaient pas énormément de lumière. 1h30 par jour de comète, donc les jours sur la comète durent 12 heures, 1h30 au lieu de 6 heures, donc pas suffisant pour l'alimenter en permanence.
Du coup, il s'est endormi.
Il avait sa batterie principale avant, qui devait durer 2 jours et demi, qui lui a permis de faire la dizaine d'expériences qu'il devait faire, donc et de tout envoyer sur la Terre à Rosetta. Donc vraiment en deux jours et demi, il a fait tout ce qu'il devait faire, même plus encore. Il a tout envoyé, donc il y a pas de souci.
Donc mission réussie alors.
Mission réussie. Le reste c'était du rab, c'était du bonus. Et les scientifiques sont en ce moment même en train d'analyser tout ce qu'il a envoyé, et les premiers résultats scientifiques devraient paraître dans quelques semaines, début décembre à peu près.
Début décembre, dans 3 semaines. Merci Simon Rosé d'être venu avec votre très beau t-shirt, Rosetta et Philae. J'imagine que ce sont les ingénieurs européens qui vous l'ont offert.
Tout à fait, oui.
Très bien. Écoutez, on postera la photo tout à l'heure sur le site Facebook de l'émission. Merci Simon, merci à tous pour vos questions concernant donc la sonde Rosetta, cette sonde européenne, mission accomplie. Donc, nous disait à l'instant Simon Rosé. Beaucoup de réactions au standard, on prendra d'autres questions demain puisqu'il nous reste à peine 2 minutes, mais on va déjà aller entamer un tout petit peu le débat du jour, juste pour vous donner un peu un aperçu des réactions que nous recevons au standard concernant la transition au Burkina Faso. Avec nous au standard, Jean, bonjour.
Bonjour, Juan.
Comme tous ceux qui appellent depuis hier le standard de l'émission, vous êtes fier de ce qui se passe en ce moment même dans votre pays.
Donc, tout à fait, parce que nous assistons aujourd'hui à... On a redoré le blason, comme on dit. Les Burkinabés sont fiers d'être patriotes, d'être... d'avoir parvenu donc à cette réconciliation sans trop de patience humaine.
Et vous nous direz tout à l'heure, juste après le journal, Jean, quelles doivent être les priorités du nouveau président de la transition, les priorités de Michel Cafondo. Et puis on lancera le débat, évidemment, sur une question qui, dès hier, on le remarquait dans vos réactions, suscitait beaucoup d'intérêt. Qui sera le nouveau Premier ministre, un civil ou un militaire? Je vous rappelle que la charte de la transition prévoit ces deux options. Le choix en reviendra donc à Michel Cafondo. C'est lui qui nommera le Premier ministre. Théoriquement, si le calendrier reste nous connaîtrons demain le nom du nouveau chef du gouvernement. 33 9 693 693 70. Vos réactions sur Facebook. Par exemple, Amadou nous dit « Les Burkinabés ont prouvé qu'ils sont vraiment des hommes intègres. Bonne chance à cette transition. » Restez avec nous tout de suite, le journal.
Appel sur l'actualité. Vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.